dans le divorce qui est déjà un drame, à savoir que on s'arrange de plus en plus pour divorcer, disons, pour des peccadilles, n'est-ce pas, de manière à ce que, surtout, on souffre le moins possible, quitte à ensuite continuer à cultiver avec l'ex-conjoint, pardon d'utiliser ce terme, les relations de camaraderie, d'échange, de communication, comme si finalement rien de bien important s'était passé. Et souvent, avec des grandes interrogations dans l'esprit des enfants. Hein? C'est pour cela qu'il faudrait à la fois nuancer, mais qu'il y a quelque chose de vrai. Après un divorce, aucune cicatrice ne demeure. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et on fait tout dans ce sens. Les relations entre les générations se dissolvent le plus vite possible, sans lutte, sans laisser de traces. Les périodes de deuil sont raisonnablement courtes. Les handicapés et les malades sont éloignés au plus vite de la maison et les morts de la pensée. S'il est aussi facile de changer de partenaires conjugaux que d'échanger sa vieille voiture contre une neuve, alors les expériences que l'on a faites dans des relations malheureuses demeurent infructueuses. On n'apprend rien d'une telle souffrance et on n'a rien à en apprendre. Et c'est ce qui fait qu'un premier divorce, quand on se remarie, ça c'est encore un autre problème, succède un second, puis un troisième, puis un quatrième, n'est-ce pas? On n'apprend rien de cette manière. Nous avons perdu l'habitude des anciens dans ce domaine de tirer des leçons de ce qui nous arrive. D'ailleurs, vous savez que même en France, nous avons un patrimoine, une collection impressionnante de proverbes, d'adages des temps anciens, certains étaient justes, d'autres faux, mais souvent qui étaient liés aux observations, liés aux souffrances, aux difficultés de la vie, aux problèmes, n'est-ce pas? On en avait tiré des enseignements qui revenaient à dire « la souffrance est un conseil », voyez? Mais maintenant, les vieux adages, hein, qui les connaît encore. J'ai donc dit, elle est trop systématiquement considérée comme une ennemie, une intruse, il faut y échapper à tout prix. Là, je voudrais pas laisser une mine antipersonnelle derrière moi. Ceci dit, nous pouvons quand même nous réjouir dans le domaine de la souffrance physique, du fait que les choses ont quand même beaucoup changé par rapport au passé, en ce qui concerne la médecine. Même si en France, on a encore du retard par rapport à d'autres pays du monde dans ce domaine. Mais il est vrai que quand on souffre beaucoup, on apprécie ce que la médecine offre pour soulager ses souffrances. Quand on sait les hurlements dans lesquels peuvent vivre certains malades dans certains types de cancers et autres, n'est-ce pas? Et bon, heureusement que maintenant, on peut soulager beaucoup plus que jamais auparavant. Pour être beaucoup plus simple, je me souviens tout simplement de ma hantise lorsque j'étais enfant et que mon père me disait, tu sais, on a rendez-vous chez le dentiste. Quand vous voyez la manière dont la roulette tournait et comme c'était actionné à la pédale, si jamais le brave chirurgien dentiste se relâchait un peu, ça tournait, la fraise tournait plus lentement, etc., etc., n'est-ce pas? Ah, moi j'ai des souvenirs immondes de cette époque, j'ai fui parfois le cabinet. Quand j'étais entré, j'étais aussitôt ressorti, ce qui me valait des corrections, parce qu'il fallait soigner. Et je sais que j'ai deux trous dans... Bon, j'ai mes quatre dents de sagesse, je suis très honoré à cet égard. Et elles fonctionnent bien. Mais j'ai deux molaires qui ont disparu. Et je sais qu'elles ont disparu parce que j'avais trop peur du dentiste et que je faisais tout pour y échapper. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, oh, n'exagérons pas, mais disons quand même que c'est pas problématique pour moi d'aller chez le dentiste. Bien sûr qu'on s'en passerait, mais on sait que généralement, à moins d'extrêmes complications, ça va se passer à peu près bien, n'est-ce pas? Et il faut toujours raisonner par comparaison hein, dans ce domaine. Voilà en tout cas une illustration. Mais là aussi, que dire de l'abus des médicaments pour les moindres bobos qui suppriment l'activité des défenses naturelles du corps? On pourrait parler de tous les faux pouvoirs de l'argent qui permet de court-circuiter l'effort, la peine, la pénibilité. Et là, il y a la notion de souffrance et la joie aussi. On peut acquérir rapidement, sans souffrance ni combat, l'automatisation, l'air presse-bouton. On a évoqué le petit écran et tous les écrans d'aujourd'hui avec leurs violences indolores et inodores. Alors maintenant, on veut mettre des parfums. Hein. On est en train de chercher des solutions, mais ça ne m'intéresse pas. Toutes sortes de constructions, d'avenues qui permettent d'évincer, d'escamoter, d'abolir certaines souffrances. Mais ces souffrances ressortent par ailleurs. La souffrance est comme une hydre de l'air, n'est-ce pas? Vous coupez une tête et vous en avez sept qui repoussent. Et c'est ce que l'on vit dans notre société. La pédagogie non directive, le refus de la fessée, le refus d'une souffrance momentanée, j'ai pas dit le refus de l'assommoir, hein, mais je lis dans les Écritures que la correction peut atteindre le degré où elle soit corporelle. C'est dans les Écritures. Bien entendu, même dans le livre des Proverbes, il est dit que quand on utilise ce moyen-là, il ne s'agit pas de vouloir tuer ses enfants. Hein. Il y a donc un équilibre pour ne pas faire tout n'importe comment et n'importe quand. Mais c'est vrai que la main qui caresse gentiment et celle qui descend parfois plus bas sur une autre partie plus charnue que les joues et qui semble avoir été partiellement faite pour ça, de manière à ce que ce qui n'est pas entendu par le langage de la douceur soit entendu par un langage de la souffrance, n'est-ce pas? On voit le résultat aujourd'hui. Que de souffrance dans une génération d'adultes maintenant qui a été privée d'un amour un peu percutant parfois et d'un nom tellement sécurisant, n'est-ce pas? Alors je sais que ce que je dis pourrait me valoir d'être lapidé aujourd'hui dans notre société. Et pourtant, il est une jeunesse et parfois un âge plus aîné qui crie ces choses en disant « Si seulement on avait su me dire non !» Parce qu'ils ont suffisamment de lucidité pour réaliser que leur souffrance, c'est le résultat du refus d'infliger une souffrance momentanée et de souffrir à cause de ça. Parce que de bons parents, quand ils s'occupent comme il faut de leurs enfants, sont les premiers à souffrir. Chaque fois qu'on doit envoyer ses mains là où, hein, bon, eh ben on souffre dans son cœur. On souffre. Mais on sait que cette souffrance fait partie de tout un processus éducatif qui s'inscrit dans le long terme. L'éducation prend du temps. Mais aujourd'hui, il faut tout faire vite. Hein. Mais l'éducation prend du temps. Et dans cette éducation, il y a ces éléments-là, vous voyez. Donc ça entre dans ce panorama que je brosse en ce moment. La question des devoirs et des contraintes, etc. Voilà. Cinquièmement, le christianisme traditionnel, j'ajouterais même évangélique, a sa part de responsabilité dans l'incompréhension du message de la souffrance. parce qu'il est trop souvent infidèle par rapport à l'ensemble du message de la Bible sur la question. Je dis bien par rapport à l'ensemble du message de la Bible sur la question. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout d'abord, on ne s'y arrêtera pas. Il y a toutes les fausses conceptions de la souffrance présentées, annoncées, enseignées comme offrant de méritoire permettant de monnayer l'entrée au paradis en passant bien sûr par le purgatoire, mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Donc le caractère salvateur des souffrances, le caractère méritoire des souffrances. Il est évident que même aujourd'hui où le catholicisme n'a plus du tout la même emprise qu'il avait autrefois, ce sont quand même des siècles d'une mauvaise instruction sur cette question de la souffrance qui ont laissé des traces. C'est quelque chose de viscéral. La vision de Dieu dans les pays qui ont été dominés pendant des siècles par le catholicisme, et bien entendu la vision de la souffrance, etc., la vision de la sexualité, de l'homme, quantité de domaines, est complètement faussée. Là où la doctrine a été très très éloignée des Écritures, n'est-ce pas ? Alors, nous n'allons pas nous y appesantir parce que je pense que nous connaissons. Et disons simplement que s'il en était vraiment ainsi que nos souffrances soient salvatrices, nous aurions affaire à un Dieu sadique et à un Dieu arbitraire d'une immonde injustice, puisque nos chemins, nous le disions tout à l'heure en introduction, aux uns et aux autres sont tellement différents. Certains connaissent des souffrances au long de leur vie, mais d'autres accumulent les drames. Il y a une sorte d'inégalité, si vous voulez, dans nos cheminements aux uns et aux autres, n'est-ce pas ? Qui appartient aussi à la volonté souveraine de Dieu ? Pourquoi ? Parce que on le voit à rebours en examinant la vie des hommes du passé. Quand Dieu a voulu se préparer des hommes et des femmes pour leur donner un ministère d'une certaine envergure dans certains domaines, en quelque sorte, nous le voyons, nous, avec le recul, il fallait qu'ils connaissent des situations très particulières de souffrance. Voyez, ce n'est qu'une réponse, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans ce domaine. Mais cela voudrait dire, n'est-ce pas, que la personne qui va beaucoup souffrir dans sa vie ici-bas, et qui va même essayer d'y ajouter des souffrances, et vous savez qu'il y a toutes sortes de moyens. On parlait de l'Opus Dei ces derniers temps, avec cette manière de pendant 2 heures chaque jour se flageller ou se mettre des machins qui font mal, etc. Vous voyez, mais quelle vision de Dieu ? Quelle injustice ! Parce que l'un aura le privilège d'avoir un accès beaucoup plus facile au ciel à cause de ça, là où l'autre en sera privé. Et puis alors, on se demande à quoi sert Jésus-Christ dans ce domaine, n'est-ce pas ? Alors il y aurait bien sûr ici certains textes à examiner, mais je ne veux pas entrer dans le détail, mais vous avez un texte qui me revient immédiatement à l'esprit, c'est Colossiens 1:24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors, voilà un exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, à savoir extraire ce verset du contexte général des Écritures pour lui faire dire le contraire de ce qu'une multitude de textes disent dans les Écritures. Parce que ça voudrait dire que les souffrances de Christ ne sont pas terminées et qu'il continue encore aujourd'hui à souffrir. Alors on pourrait se dire pour notre salut, c'est ce qui se dit dans cette doctrine. Mais même sans faire de grec, mais on va faire un peu de grec ici, le terme souffrance qui est utilisé ici, c'est un terme qui n'est jamais utilisé dans le texte grec du Nouveau Testament pour évoquer les souffrances expiatoires de Jésus-Christ. C'est un terme qui est utilisé aussi pour les croyants, pour les gens. C'est un terme qui signifie pression, simplement, détresse, voyez. Quand je suis dans une situation de tension, de pression, de détresse, c'est le terme qui est utilisé. Mais il n'est jamais utilisé pour évoquer les souffrances expiatoires qui ont abouti à notre salut lorsque nous sommes venus à la croix. Les souffrances de Christ, mais ce sont les souffrances, par exemple, aujourd'hui, bien sûr à une autre échelle, d'une maman. N'importe quelle maman, bien sûr, connaît les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas ? Qui serait là l'ombre du salut, n'est-ce pas ? À travers la croix. Mais ensuite, est-ce que ces souffrances s'arrêtent là ? Qu'elle ait 40, 50, 60, 70 ans, 80, 90 ans. Tant qu'elle a des enfants qui sont ici-bas, si elle est une vraie mère, elle va souffrir. Mais ce ne sont plus les souffrances de la naissance. Ce sont les souffrances qui sont liées à l'accompagnement, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à la solidarité, etc., n'est-ce pas ? Eh bien, de la même manière, les souffrances expiatoires de Christ se sont arrêtées à la croix. Mais comme nous aurons l'occasion de le dire, le Seigneur, bien sûr c'est difficile à comprendre, mais nous n'avons pas un Dieu apathique, insensible. C'est pas un Bouddha, notre Dieu. Dans les Écritures, nous aurons peut-être l'occasion de le voir, mais Dieu souffre. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. Lisez le prophète Osée. Le livre du prophète Osée, c'est le cœur de Dieu qui pleure. Parce que Dieu est comme un amoureux de son épouse Israël qui est trompé de la manière la plus abominable qui soit. Et dans sa souffrance, il rugit comme un lion. Il est agressé profondément, n'est-ce pas ? Dieu souffre. Bien sûr, sa souffrance n'est pas semblable à la nôtre, dans ce sens que ça n'empêche en quelque sorte pas Dieu de vivre sa vie parfaite, je dirais sa paix parfaite, de la même manière que Dieu veut nous amener à lui ressembler dans ce domaine, hein, à pouvoir, au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche avec lui, traverser la tempête, verser des larmes, avoir le cœur brisé, et pourtant connaître sa paix. Pourtant connaître sa paix. Donc vous voyez, comment on peut, je ne peux pas continuer à développer ce texte, mais comment on peut détourner le sens d'un texte quand on l'isole de son contexte dans le domaine de la souffrance. Alors ça, c'est un aspect, mais il y en a bien, bien d'autres, n'est-ce pas ? Le salut, parfois présenté comme une garantie anti-souffrance, une évangélisation, faut-il parler d'évangélisation ? Une pseudo-évangélisation conduisant l'homme dans l'utopie, hein, royaume de bonheur sans souffrance. Et moi, je suis surpris de voir le nombre de livres qui sont traduits en français et qui se trouvent dans nos librairies évangéliques et qui vont dans cette direction. Nous qui sommes soi-disant le peuple de la Bible, mais comment est-ce que nous lisons la Bible ? alors qu'il y a, que la souffrance a une telle place et qu'il y a un tel enseignement d'une telle richesse dans la Bible sur ce thème, comment est-ce que nous avons pu agir d'une manière si réductrice sur un thème aussi riche et aussi complexe à la fois? C'est l'auteur de ce livre que je vous recommande vivement, c'est le second, sont les deux seuls que je vous présenterai, Jusque à quand. Son auteur s'appelle Donald Carson, C-A-R-S-O-N. Il est publié aux éditions Excelsis, donc c'est tout récent, hein. Il a été publié en 2005. C'est un livre consacré au mal et à la souffrance, réflexion sur le mal et la souffrance. Il a un autre livre qui est absolument remarquable sur la prière, mais vraiment remarquable. Carson est un théologien solide et qui ne se gêne pas de, quand c'est nécessaire, de pulvériser nos petites équations faciles en montrant la complexité du problème, mais ensuite en apportant un certain nombre de réponses solides, tout en reconnaissant, d'autre part, qu'il est des domaines de mystère. Psaume 73. Que je vais lire pour vous. Psaume 73, c'est un psaume d'Asaph, et d'Asaph avait cette particularité d'être le fondateur d'une sorte de confrérie de chantres et musiciens. À l'époque du roi David, il dirigeait une des trois grandes chorales du temps de David. Et si mes souvenirs sont exacts, il donnait le rythme aussi, puisqu'il utilisait la cymbale. C'est lui qui donnait le rythme, ça devait être assez extraordinaire. Et donc c'était un homme de Dieu qui avait pour vocation d'aider le peuple de Dieu à chanter les louanges de Dieu. Et il a eu cette honnêteté d'évoquer dans ce psaume une crise sérieuse, profonde, qu'il a connue à un moment donné de sa vie, alors qu'il était en plein service, semble-t-il, comme conducteur des chants de louange et d'adoration, jour après jour. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur ou la prospérité, le terme c'est shalom, la paix, mais qui a un sens très, très générique, qui touche toutes sortes d'aspects, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les imaginations de leur cœur se font jour ou dépassent la mesure, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ou voilà pourquoi on en arrive là. C'est le culte populaire du succès, n'est-ce pas? Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. Ça, c'est le constat. Je pense que il n'y a qu'une part de vérité dans un tel constat. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un face-à-face entre quatre murs et entre quatre yeux, avec une personne qui correspond à ce statut, ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes, ils ne sont point frappés, etc. Vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Et qu'il y a bien des souffrances cachées. Je me souviens, lorsque j'étais responsable d'église en Bretagne, avoir reçu la visite d'un chef d'entreprise qui était assez connu dans sa ville et qui éprouvait le besoin de vider son cœur. Donc il était venu me voir et je l'ai raccompagné jusqu'à son quartier, jusqu'à chez lui. Et pendant que nous circulions pour aller vers sa maison, il me disait, vous voyez, tous ces gens ont l'impression que je suis heureux. Et en réalité, vous savez ce qu'il en est. Vous voyez, entre la façade, entre ce que les autres perçoivent et les réalités profondes, il y a souvent d'énormes différences. Et c'est vrai que nous nous laissons prendre par les apparences. C'est donc, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, ou ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants, ou alors j'ai compris le sort final des méchants. Vous ne trouvez pas que ça ressemble étrangement à ce que nous sommes parfois tentés de dire lorsque vous habitez peut-être à un étage d'une maison dans un des appartements et votre voisinage connaît votre appartenance à Jésus-Christ. Et puis, les gens vous croisent. Une semaine, ils remarquent que vous avez un bras dans le plâtre. La semaine suivante, vous avez eu un accident de voiture. La troisième semaine, vous relevez de maladie, enfin bref. Et ils éprouvent un malin plaisir à vous narguer, n'est-ce pas, en disant, tiens, votre Dieu, il s'occupe rudement bien de vous. Vous voyez que le problème n'est pas neuf. Asaph a vécu au temps de David. Donc, 1000 ans avant Jésus-Christ, tout rond, hein, pratiquement. Ouais. Et il avait un peu le même type de problèmes que les compagnons de Job, c'est-à-dire qu'il avait aussi ses équations, parce que ces équations étaient très très courantes. Du temps de Jésus, on retrouve les mêmes équations. Ainsi, j'ai un pépin, c'est que j'ai péché. Et Jésus a confronté ce type de situation. Rappelez-vous, par exemple, Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ça, c'est quelque chose qui a accompagné une forte proportion du peuple juif, n'est-ce pas? Tout au long de centaines et de centaines d'années, on avait cette conception que, normalement, quand on était dans une situation de souffrance, c'est qu'il y avait du péché qui se cachait quelque part. Et c'est ce qui troublait Asaf, parce qu'il remarquait qu'il semblait y avoir une anomalie. Voilà des gens qui buvaient le péché comme l'eau et qui n'entraient pas dans cette équation classique. Ils ne souffraient pas comme ils auraient dû souffrir. Vous avez la même allusion dans un texte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, qui pourrait très bien être écrit demain dans les journaux, dans nos quotidiens, Luc 13, verset 1 et suivant, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Vous voyez, Jésus souligne la manière de penser, parce qu'il lit déjà dans leur approche que cette manière de penser va se manifester. Alors, il les précède même. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » Ça fait penser au 11 septembre, avec les Twin Towers, les deux fameuses tours. Même type de question. Et vous savez qu'on a entendu, par rapport à cette catastrophe terrifiante, des raisonnements exactement du même type. Si ils étaient là, c'est que, n'est-ce pas? Faut être prudent. Jésus, lui, que dit-il, n'est-ce pas? Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dans le fond, Jésus dit, vous posez la mauvaise question. Il ne s'agit pas de s'intéresser au pourquoi, en un mot, des catastrophes, mais au pourquoi, en deux mots, des catastrophes. Et le pourquoi, en deux mots, pour chaque individu sur la terre, chaque fois qu'il y a un problème qui se passe autour de nous, c'est une interpellation sur notre vulnérabilité, sur notre fragilité, sur notre besoin de Dieu, besoin de mettre notre vie en règle avec Dieu, c'est-à-dire de nous repentir. C'est un appel. Et c'est ça ce qui compte, finalement. Et non pas essayer, dans notre tête, de creuser pour savoir pourquoi ces choses ont eu lieu. Quel est le péché, quelle est la situation, quelle est l'anomalie qui se cache derrière? Bon, il y a des enquêteurs qui s'en occupent dans certains domaines, mais dans le domaine moral et spirituel, c'est vrai qu'il y a des péchés qui se traduisent obligatoirement par des souffrances. La première épître de Pierre en parlera de manière remarquable, puisqu'elle a été écrite aussi pour des situations de souffrance, mais plus particulièrement de persécution. Je pense par exemple à 1 Pierre 2, 18, serviteurs ou domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, nous dirions à vos patrons, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont une scoliose du caractère. Le terme grec, c'est scoliose, disons, ça va de travers dans le caractère. Car c'est une grâce de supporter, d'endurer des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? C'est vrai qu'il y a la loi de cause à effet. Il y a la loi des semailles et des moissons. Et cette loi, elle fonctionne continuellement dans notre société. Et nous-mêmes, nous l'avons expérimentée dans nos vies. Qui d'entre nous, dans sa vie, n'a pas connu la loi des semailles et des moissons ? Il est évident que si vous semez la calomnie, ne vous attendez pas à récolter de la pureté et de la justice quelque part, n'est-ce pas ? Hein ? Vous avez la même pensée dans 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, pour avoir surveillé autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc, gros problème dans la mentalité juive, sur des centaines et des centaines d'années, toujours ce principe qui finalement met mal à l'aise, ça met Asaph mal à l'aise, parce qu'il arrive un moment où son équation ne marche pas. Parce qu'il dit, c'est curieux, moi qui te plais de tout mon cœur, qui veux vraiment marcher de tout mon être avec toi, et moi qui ai accepté de t'obéir, qui dirige la louange, qui entraîne le peuple à te louer, à t'adorer, moi j'ai tous les pépins. Et puis ceux qui autour de moi, au contraire, se conduisent très mal, qui pêchent, ben, où sont les conséquences, n'est-ce pas ? Alors il est complètement perturbé par cette équation qui ne colle pas avec la réalité. Et puis, j'aime ce verset 16 et 17 que nous avons lu. Il reconnaît tout d'abord que c'est pénible de réfléchir à ces choses. Hein. Réfléchir au problème de la souffrance, c'est quelque chose de pénible, c'est pas la chose la plus agréable qui soit. Mais une fois qu'il a contemplé Dieu dans le sanctuaire, une fois qu'il s'est placé devant Dieu, qu'il est entré en quelque sorte dans sa présence dans le sanctuaire, Dieu lui a dit un certain nombre de choses. Comme Dieu nous dit un certain nombre de choses dans sa parole, de manière à ce que nous comprenions sa pensée à lui. Oui, verset 18, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses le rimage. Lorsque mon cœur s'est grissé, lorsque je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Dans le fond, il fallait que Asaph apprenne à accepter jusqu'à un certain point le caractère injuste des souffrances que l'on peut connaître, qui ne sont pas toujours liés à la moisson de ce que l'on a semé. Ce qui est le plus difficile à vivre dans nos vies de disciples de Jésus-Christ, c'est ça. Ce sont les souffrances injustes. C'est injuste. D'autres se conduisent mal, ils ne souffrent pas. Moi, je fais tout pour marcher avec toi, je te suis consacré et regarde tous les pépins que je connais. Voyez. Alors, il est entré dans le sanctuaire et regardez cette conclusion à partir de verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il a été renouvelé par sa vision de Dieu. Notre vision de Dieu est d'une importance absolument capitale pour nous, pour que nous réalisions, en fait, comme nous allons le voir d'ici à demain après-midi, la manière dont Dieu contrôle toutes les situations, y compris les situations les plus incompréhensibles dans chacune de nos vies. Dieu est en contrôle, ça c'est quelque chose que nous dirons souvent, et il en arrive donc à dire au verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Je suis prêt à passer par n'importe quelle difficulté, maintenant. J'accepte. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, nous avons lu ce psaume 73 au début de cette deuxième partie de notre étude pour souligner combien la Bible est réaliste. La Bible qui présente les combats intérieurs très douloureux connus par les croyants. Nous aurions pu prendre Jérémie. J'aime le prophète Jérémie. La manière dont de temps à autre il parle avec Dieu avec une franchise qui nous apparaît déconcertante de tout ce qu'il ne comprend pas de ses souffrances, de son désir de fuir au désert, de cesser de connaître, lui qui est si fidèle, les combats parfois tellement terribles qu'il connaît. J'ai pu relever moi-même dans l'ensemble des 150 psaumes autant de passages, 150 passages qui parlent de manière directe des ennemis que rencontre le croyant sur son chemin. 150 passages. La densité de l'hostilité, de l'inimitié, de la souffrance, des combats est extrêmement dense dans les livres des psaumes. Et ce qui est intéressant, on l'a vu dans le psaume 73, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage » ou verset 28, « Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel ». C'est incroyable. J'ai personnellement fait toute une approche du nombre de passages des psaumes qui évoque la sécurité que nous trouvons en Dieu, le refuge que nous trouvons en Dieu, Dieu le défenseur, la haute retraite, l'appui, le soutien, le bouclier, la tour, le rempart, le rocher, l'abri, le garde, celui qui cache, qui couvre, qui porte, qui entoure, qui préserve. J'ai relevé quelques 144 versets uniquement consacrés au Dieu protecteur, au Dieu qui donne la sécurité, au Dieu qui entoure quand on est dans le combat, dans les situations difficiles. J'ai trouvé 170 mots dans ces 150 psaumes, 170 mots qui tournent autour de ce langage de la sécurité, de la protection que nous trouvons en Dieu dans nos combats. Voyez la place qu'occupent dans les Écritures les combats, la souffrance, dans la vie de l'enfant de Dieu, déjà dans l'ancienne alliance. Je dirais simplement que le croyant a une approche de la souffrance qui devrait être particulière. Je l'ai mis en rouge là dans mon manuscrit, ce qui fait la richesse de la vie avec Christ. Ce n'est pas l'absence de souffrance, mais c'est la présence de Christ dans toutes nos circonstances et la fécondité de la souffrance contrôlée par Christ. Le disciple de Christ a un autre regard, il assume la souffrance différemment, bien sûr, en fonction de sa maturité spirituelle. C'est le philosophe évangélique genevois Alexandre Vinet qui a écrit ceci: « Christ n'est pas venu pour nous délivrer de la souffrance et de la mort, mais pour nous apprendre à souffrir et à mourir. Il a mieux fait que de supprimer la souffrance et la mort. Il les a rendues utiles d'inutiles qu'elles étaient. » Et j'ai relevé ce beau texte du missionnaire en Chine, Hudson Taylor, qui a écrit ceci: « Parlant un jour à mes étudiants, je leur demandais quelle était la vallée la plus longue, la plus large, la plus peuplée du monde. Et tous commencèrent à appeler à leur aide toutes leurs connaissances géographiques pour me répondre. C'était pas la vallée du Yangtze, celle du Congo ou du Mississippi, non. C'est la vallée des larmes, celle que la Bible appelle la vallée de Baca, qui les dépasse toutes, et qui a été foulée par des multitudes innombrables. Il est bien rare qu'un être humain n'y passe une fois ou l'autre. Mais pour nous, la souffrance importe moins que son fruit. Qu'en avons-nous fait pour nous-mêmes, pour les autres, de cette longue et ténébreuse vallée? Quelle est notre attitude en la traversant? Désirons-nous surtout le plus court chemin pour en sortir? Ou cherchons-nous, selon la promesse divine, à la transformer en un lieu plein de sources pour la bénédiction des autres et pour la gloire de Dieu? L'homme dont la force est en Dieu a appris la valeur de la vallée des larmes et sait que ces endroits arides et désolés donnent des sources après lesquelles, dans le monde entier, soupirent les cœurs. Et il s'appuie sur le psaume 84, verset 7, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédiction. » Le regard du croyant authentique sur la vie et sur la souffrance n'est pas à court terme. Il est à long terme. Ces difficultés de tous ordres s'inscrivent dans un plan d'amour dont l'aboutissement est glorieux. La perspective finale est fantastique. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Job 19, versets 25 à 27, qui est un des hauts sommets du livre. Une fois croyant, écrit quelqu'un, nous avons beau naviguer au milieu des tempêtes, sur les hautes eaux du temps présent, non seulement nous savons qu'aucune vague ne peut nous engloutir, mais nous sommes assurés que chacune d'elles travaille à nous rapprocher du but de la course. J'ai là ce témoignage d'un pasteur qui se savait atteint d'une maladie en phase terminale. Il venait d'ailleurs de l'apprendre, c'était un gros choc, et pourtant le dimanche suivant, il dit à son assemblée: « J'ai fait 3 kilomètres à pied, depuis le bureau du médecin jusqu'à la maison. » J'ai regardé la montagne majestueuse que j'aime tant. J'ai regardé la rivière dans laquelle j'aime tant m'amuser. J'ai regardé les arbres majestueux qui sont comme la poésie de Dieu pour mon âme. Le soir venu, j'ai contemplé l'étendue du ciel où Dieu avait allumé ses lampes et j'ai dit: « Je ne te verrai peut-être plus de nombreuses fois, mais montagne, je serai vivant quand tu ne seras plus. Rivière, je serai vivant quand tu cesseras de te déverser dans l'océan. Et étoile, je serai vivant quand vous tomberez du ciel lors de la destruction de l'univers. Quel beau témoignage. Mais voyez qu'il faut entrer dans les sanctuaires de Dieu. Il faut entrer dans les sanctuaires de Dieu avec Asaph. Et si on entre dans les sanctuaires de Dieu, alors il devient possible de dégager un certain nombre d'affirmations avec illustration à l'appui, c'est ce que nous allons faire, qui seront autant de réponses à nos pourquoi face à toutes nos situations de souffrance. Et là, j'aimerais à nouveau dire quelque chose qui m'apparaît très importante. Nous n'avons pas toutes les souffrances et de loin. Toutes les réponses et de loin à nos pourquoi. Il y a toute une part de mystère dans bien des drames. Tout n'est pas compréhensible et explicable ici-bas et maintenant. Ce qui a fait dire à quelqu'un, d'ailleurs, nous sommes au pays des pourquoi, nous allons au pays des parce que. Nous allons au pays des parce que. Mais les réponses de Dieu dans sa parole, confirmées par l'expérience, sont une aide fantastique pour accepter l'inexplicable beaucoup plus sereinement. Et combien de fois il m'est arrivé de le dire, « Mais Seigneur, là je ne comprends pas. Mais je l'accepte parce qu'il y a tant de domaines dans ma vie où tu m'as donné des clés, où tu m'as donné des certitudes, où tu m'as donné des réponses, où tu t'es prouvé comme étant le Dieu de vérité, le Dieu vivant, le Dieu sur lequel je peux m'appuyer, le Dieu sur lequel je puis compter. » J'ai remarqué que dans le livre de Job, sur la fin du livre, Job pose environ 60 questions à Dieu. Et que lorsque Dieu prend la parole, au milieu de la tempête d'ailleurs, sur la fin du livre, il va à son tour, à partir du chapitre 38 de son livre, chapitre 38 et 39, il va poser une soixantaine de questions à Job. Tu m'as posé 60 questions, en réponse, j'ai 60 questions à te poser. Et toutes ces questions de Dieu à Job tournent autour de la souveraineté de Dieu. Pour montrer en fait la capacité de Dieu, la toute suffisance de Dieu, la puissance de Dieu, le fait que on peut s'appuyer sur Dieu, que Dieu est solide, qu'il est fiable, qu'il ne change pas, qu'il est stable, immuable, qu'il n'est pas menteur, etc., etc., n'est-ce pas? Et en fait, c'est finalement cette description indirecte de Dieu par lui-même, à partir de cette soixantaine de questions, qui a suffi à Job, beaucoup plus que tout ce que Dieu aurait pu essayer de lui donner comme explication plus précise. « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Question de vision de Dieu. Quelle est notre vision de Dieu? Grande question, n'est-ce pas? Savez-vous que déjà dans les années 80, un spécialiste aux États-Unis fait une enquête très approfondie pour voir quels étaient les principaux sujets qui étaient traités par les auteurs d'ouvrages évangéliques. Et il a découvert que près de 88% des ouvrages évangéliques publiés pour les lecteurs anglophones traitaient de sujets qui tournaient autour de la personne humaine et de ses besoins. des ouvrages donc beaucoup plus centrés sur l'ego, sur le moi, sur la nécessité de connaître le confort, d'être bien dans sa peau, savoir comment être heureux dans tel et tel domaine, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte que 88% pratiquement, à quelques dixièmes près, d'ouvrages étaient centrés sur l'homme. Il restait donc pratiquement 12% qui traitaient les sujets les plus essentiels, n'est-ce pas ? Par exemple, la personne de Dieu. Alors, si nous pouvions, à la suite de ce week-end, déjà, revoir nos priorités aussi à cet égard, et être beaucoup plus préoccupés de mieux connaître Dieu, plutôt que de mieux connaître tous les mécanismes de nos problèmes et les solutions que les auteurs donnent dans leurs bouquins. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Si tout était si bon dans tout cela, mais mes amis, le peuple évangélique devrait se porter à merveille avec tout le matériel qu'il a à sa disposition aujourd'hui pour être bien dans sa peau, comment se fait-il qu'on court encore tant après des ouvrages de ce genre ? Mais tout simplement parce qu'on ne va pas frapper à la bonne porte. C'est lorsqu'Asaph est entré dans les sanctuaires de Dieu qu'il a commencé à voir clair, à comprendre, et que sa mentalité a commencé à changer, et que véritablement, en quelque sorte, il est tombé amoureux de Dieu, n'est-ce pas ? Désormais, mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Tu es le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien, n'est-ce pas ? Et je tenais à le dire, d'autant plus que nous allons vraiment enfoncer le clou dans la suite de notre étude. Je termine simplement cette partie-là avant d'ouvrir une porte qui va nous préparer aux deux études de demain en nous rappelant que la souffrance est au cœur même de la vie de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Dieu n'est pas insensible, Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas lointain. Et ça c'était aussi un problème dans le judaïsme. On le trouvait dans les religions païennes, mais même dans le judaïsme, les juifs avaient des problèmes parce que dans leur idée, Dieu était tellement grand, tellement transcendant, comme le dit en théologie, tellement loin de l'homme et différent de l'homme par sa majesté, par sa puissance, par sa pureté, que ce Dieu était un Dieu impassible, n'est-ce pas, qui ne se laissait pas atteindre par les problèmes de l'homme. Ils avaient une vision complètement erronée. Non, pas du tout, n'est-ce pas. Dieu a répondu au peuple juif, comme au monde tout entier, par rapport à cette question de la souffrance, en envoyant son Fils. N'est-ce pas, au centre du christianisme se dresse la croix de Golgotha, où la douleur de Dieu a été la plus vive, parce que son amour s'y manifestait parfaitement. J'ai sous les yeux là une citation de ce théologien et résistant protestant pendant la dernière guerre mondiale en Allemagne, qui d'ailleurs a été exécuté peu après sur l'ordre d'Hitler, jeté en prison parce qu'il résistait aux nazis, à Hitler, Dietrich Bonhoeffer. Et dans une des nombreuses lettres qu'il a écrites en prison peu avant de mourir, au début 45, dans les premiers mois de 45, il écrit ceci. « Il est infiniment plus facile de souffrir par obéissance à un ordre humain que d'accepter la souffrance en tant qu'homme libre et responsable. » Il est infiniment plus facile de souffrir avec d'autres que de souffrir seul. Il est infiniment plus facile de souffrir comme un héros public que de souffrir dans un coin et dans l'ignominie. Il est infiniment plus facile de souffrir une mort physique que d'endurer une souffrance spirituelle. Le Christ a souffert en tant qu'homme libre, seul, dans un coin, dans l'ignominie, dans son corps et son esprit, et depuis ce jour, beaucoup de chrétiens ont souffert avec lui. Et un autre homme de Dieu qui raconte ceci au cours de mes séjours en Asie. J'ai souvent eu l'occasion d'observer la statue de Bouddha, gras, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais un homme suspendu à une croix, les mains et les pieds percés de clous, plongé dans la nuit la plus noire de l'abandon. Qui était cet homme? C'était Jésus, le Fils de Dieu. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Quelle différence, n'est-ce pas? Alors, en refermant la porte de cette introduction générale, je rappelle que la souffrance est une arme à double tranchant. Elle peut aigrir, elle peut mener à la révolte, à l'amertume, à la négation de Dieu, tout comme elle peut ramollir le cœur, l'ouvrir à la grâce de Dieu et transfigurer notre vie tout entière. Il existe en Angleterre une cathédrale dans laquelle on peut admirer un vitrail très particulier. Il a été réalisé par un artiste qui s'est servi de fragments de verre, de vitraux, qui avaient été jetés au rebut par un autre artiste. Et c'est vraiment là une parabole de la vie. Il y a, je dirais, sur cette terre, dans ce domaine, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui considèrent les brisements, les brisures de notre vie comme du rebut. Et puis il y a ceux qui se servent des brisures pour fabriquer, et ça, par la grâce de Dieu, de magnifiques vitraux. Nous sommes ou les uns dans ce domaine ou les autres, et nous devons passer en fait de plus en plus en tant que disciples de Christ d'un état à l'autre, n'est-ce pas? Il faut que les révoltes ou les résignations passives des débuts de notre vie chrétienne, peu à peu, fassent place à une attitude active d'acceptation, d'accueil de la souffrance, parce que, comme nous allons le voir, la souffrance est merveilleusement féconde pour celui qui est entre les mains du Seigneur. Quelqu'un écrit, certaines personnes se plaignent parce que les roses ont des épines, d'autres se réjouissent parce que les épines ont des roses. J'ai cité ceci il y a 2 ans concernant le regard de Barnabas sur l'église d'Antioche. Mais si je le cite à nouveau, c'est à cause du beau témoignage d'un prédicateur et auteur écossais, George Matheson, qui a vécu de 1842 à 1906. Il était aveugle. Et il a fait la prière suivante. « Je t'ai rendu grâce des milliers de fois pour mes roses, mais pas une fois pour mes épines. Enseigne-moi la gloire de ma croix. Enseigne-moi la valeur de mes épines. Montre-moi que je me suis approché de toi par la voie de la douleur. Montre-moi que mes larmes ont produit un arc-en-ciel. » Et ce même homme de Dieu a écrit ceci: mon âme, ne méprise pas le lieu qui un jour te vit prostré, Demande aux grands hommes du passé quel fut le début de leur prospérité. Bien souvent, ils répondront « C'est le sol glacé sur lequel un jour je glissais. » Interroge Abraham, il te rappellera le sacrifice de Morija. Interroge Joseph, il te montrera la citerne. Interroge Moïse, son histoire débute dans les dangers des eaux du Nil. Interroge Ruth, elle te rappellera son dur labeur dans les champs. Interroge David, il te dira que ses chants sont venus de la nuit. Interroge Job, il te rappellera que Dieu lui répondit dans la tempête. Interroge Pierre, il exaltera son épreuve sur le lac. Interroge Jean, il te parlera de Patmos. Interroge Paul, il attribuera son inspiration à la lumière qui le rendit aveugle. Interroge le Fils de l'homme. Demande-lui quand lui vint sa puissance sur le monde. Il te répondra « Du sol glacé sur lequel j'étais prostré à Gethsémané, c'est là que je reçus mon sceptre. Toi aussi, mon âme, la couronne te viendra de Gethsémané, la coupe que tu voudrais voir s'éloigner de toi, ton heure de solitude te l'apportera. Tu apprécieras un jour tes moments de dépression. C'est ton désert qui se transformera en allégresse. Ce sont les arbres de ta forêt silencieuse qui battront des mains. » Combien c'est encourageant. Parce qu'il est bien entendu que quand on évoque la souffrance, et c'est vrai que l'évocation du début de notre étude, quand on a évoqué Job, etc., ça peut nous faire peur. Hein. Un tel séminaire n'est pas là pour nous faire peur. Il ne s'agit pas d'être angoissé en disant « Mais la prochaine fois qu'une tuile va me tomber sur la tête, mais ça va être affreux, n'est-ce pas ?» Je pense à Corrie ten Boom, cette femme de Dieu qui a donc été à la tête d'un mouvement de résistance aux nazis en Hollande et qui s'est tellement occupée avec sa famille des juifs qui venaient pour échapper à cet horrible sort que l'on...